Aujourd'hui, nous sommes dans Genèse chapitre 24. Et au lieu de faire la lecture avant, comme je fais souvent, il doit y avoir des Bibles là. Il y a une Bible par là, vous pouvez passer un devant. Voilà. Hein? Genèse 24. Oui. C'est tout au début. Dans ma Bible, c'est page 22 dans ma Bible. Genèse 24. Donc, j'étais en train de dire, on ne va pas lire tout le texte parce que c'est un texte très long. Donc, si on lit le texte et on lit le texte encore, ben, ça va prendre tout le temps et on n'aura pas le temps de réfléchir à travers. Donc, comme introduction, je vais dire que on peut utiliser comme illustration ce texte de la relation entre Dieu, enfin le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus et l'Église, les croyants en Jésus-Christ. Et si on faisait cette application, donc Abraham représentera le Père et Isaac représentera le Seigneur Jésus-Christ. Le serviteur, qui n'a pas de nom dans ce récit, serait le Saint-Esprit qui va à la recherche de la fiancée, la future épouse. Et Rebecca sera l'Église. Et dans cette illustration, donc le Père envoie donc le Saint-Esprit pour chercher l'épouse, donc qui est l'activité aujourd'hui dans le monde que Dieu, par le Saint-Esprit, il attire du monde à Jésus-Christ, son Fils, pour croire en lui. Et le Saint-Esprit donc confie de nombreuses bénédictions sur le futur épouse. Et à la fin, le Saint-Esprit donc amène l'Église au Seigneur Jésus dans les airs. Et il y a les noces de l'agneau au ciel. Et puis donc, voilà, c'est un peu la partie. Si on utilisait cet chapitre comme illustration de la relation entre la Trinité et les croyants, d'accord? Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire la lecture de ce chapitre. On va remarquer certaines choses qui sont des fois des choses familières, des fois des choses personnelles. Et donc, j'espère que vous allez retenir plusieurs leçons de ce chapitre. Donc, on est dans Genèse chapitre 24. Et on va commencer avec le verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Donc, à ce moment, Abraham a environ, je pense, 140 ans. Il a encore 35 ans devant lui. Isaac a 40 ans. Et Abraham dit, bon, c'est le moment que je cherche pour lui une femme. D'accord? Donc, il y a ce récit parce que le papa a décidé, c'est maintenant le moment. OK? Donc, on a verset 2. Oh, j'ai voulu dire qu'Abraham était très riche. Donc, ça entre dans cette histoire. D'accord? Abraham dit à son serviteur, donc ce serviteur qui n'a pas de nom, le plus ancien de sa maison, donc on a dit maison ici, il veut dire de tous les gens qui sont sous la responsabilité d'Abraham. Et je vais le mentionner un peu plus loin, mais vous vous souvenez quand Lot avait été prise captive, il y avait 340 hommes choisis, hommes de guerre, qui sont allés combattre contre les autres rois. Donc, il y avait pas mal de monde dans la maison d'Abraham. Je dirais environ minimum 700. OK? Donc, ce n'était pas un petit chiffre. Hein? Donc, Abraham était très riche et il dit à le serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Donc, on a ici, premièrement, a constaté que dans le Nouveau Testament, parce que nous, on est chrétiens et on n'est pas juifs de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on est interdit de jurer. D'accord? Donc, dans Jacques chapitre 5, et verset 12, nous lisons, « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Donc, Dieu veut que notre parole soit claire. Hein? Il n'y a pas de ben, peut-être que oui, ben, peut-être que non, qui vient de la Normandie, on le dit, n'est-ce pas? Mais c'est soit oui, soit non. Vous devez être une personne qui, quand vous dites oui, on sait que c'est comme ça. Vous dites que vous serez là à telle heure, vous allez être là à telle heure. Vous dites que vous allez faire quelque chose, vous allez le faire. OK? C'est comme ça que nous, en tant que chrétiens, nous devons être. Les gens devraient pouvoir compter sur vous, compter sur votre parole. Et donc, dans cette histoire qui était 1900 ans avant Jésus-Christ, eh bien, Abraham va faire jurer son serviteur d'aller prendre une femme pour son fils. Le serviteur lui répond, « Peut-être la jeune femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays où d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de ma maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son serviteur, et lui jura d'observer ces choses. Donc, comme vous savez bien, Dieu avait fait des promesses à Abraham, et il devait quitter son pays. Il a quitté son pays, il est venu dans cette terre, on dit la terre promise, ou la Palestine, ou Israël. Il est venu là. Et il ne devait pas, donc le serviteur ne devait pas ramener son fils dans cet autre endroit. Principalement parce qu'il aurait peut-être aimé être là. Ou peut-être la femme serait bien contente de se marier avec Isaac, mais ne voulait pas quitter sa famille. Il fallait que Isaac reste sur place. Alors, il dit dans le verset 10, il est parti. Donc, je ne sais pas l'exacte raison, mais Dieu voulait qu'il soit dans cet endroit-là. Donc, le serviteur prend 10 chameaux. Donc, le serviteur prit 10 chameaux. Donc, 10 chameaux, ça va entrer dans l'histoire encore plus tard. Le serviteur prit les 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur. Il est parti, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nakhor. Il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Donc, ça fait 1000 kilomètres, un voyage de 1000 kilomètres. Donc, d'après Google Maps, ça prend 10 jours si vous marchez directement. Sans dormir, j'imagine, ça prend 10 jours pour marcher 1000 kilomètres. Okay? Bon, ils sont à chameau, donc peut-être ça a fait un peu moins, mais disons que c'est un voyage de 10 jours aller et de 10 jours de retour. Donc, ce n'est pas trop loin, c'est peut-être 3 semaines. Okay? 10 chameaux. Les chameaux, est-ce qu'ils boivent un petit peu d'eau ou beaucoup d'eau?
Beaucoup.
Beaucoup, d'accord. Alors, arrivé là, à ce puits, il dit, « Éternel, verset 12, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. » Donc, il commence à prier. Pourquoi il prie? Il prie parce qu'il est croyant. Je vous ai dit que la maison d'Abraham avait au moins 700 personnes. Okay? Donc, il dit que les 340 hommes de guerre étaient nés dans la maison d'Abraham. Donc, ils étaient déjà adultes, ils étaient probablement mariés, ils avaient des mamans et des papas, ils avaient peut-être des enfants. Donc, il y avait du monde chez Abraham. Alors, ce que je veux dire, c'est que la religion est premièrement une chose entre la personne et Dieu. Abraham s'est converti à Dieu, entre lui et Dieu. Comme vous, vous convertissez à Jésus entre vous et Dieu. Après, la religion est une question de famille. Abraham avait une grande famille. Et on sait qu'Abraham témoignait de sa foi dans l'Éternel. Parce que ce serviteur-là, et on sait Isaac aussi, se sont convertis à l'Éternel. Abraham témoignait de sa foi. Il a amené sa famille à la connaissance de ce qu'il croyait. On ne peut pas obliger les autres de croire ce que nous croyons, mais on peut quand même communiquer cette connaissance aux autres, ce que Abraham avait fait. Et je vous encourage dans vos foyers, bien sûr, à faire la même chose. Vous avez peut-être des enfants ou des gens qui viennent travailler. Il y a, comme par exemple chez Alain, donc son père est décédé là. Mais avant qu'il est mort, il y avait des personnes qui venaient, qui s'occupaient de son père, etc. Et c'est une famille croyante. Donc c'est normal que voilà, on utilise le moment pour parler ici et là de Dieu. Ça entre dans la chose. La maman de Sophie fait ça. Elle a toujours les infirmières et tout ça qui viennent. Elle témoigne toujours autour d'elle à ceux qui viennent dans la maison. Parce que c'est chez elle. Et vous êtes chez vous et vous avez le droit de parler de ce que vous voulez dire chez vous. Donc c'est très important qu'on communique aux autres ce que nous croyons. Donc il a commencé sa prière. Et on va voir que sa prière était détaillée. Verset 13. « Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. » Et qui répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. » Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Donc, on voit qu'il y a des détails. Et je pense aussi, dans nos prières, il faut les détails. Que tu bénis la ville de Brive, que tu bénis la France, que tu bénis le monde. Ça, ce n'est pas les détails. Ça, c'est les prières globales. Et vous ne saurez jamais si Dieu a répondu ou pas à de telles prières. Et si vous voulez savoir vraiment que Dieu agit dans votre vie, il faut prier d'une manière que Dieu peut répondre exactement comme vous avez prié. Il n'avait pas encore fini de prier que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nakhor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connu. Alors, je vais lire jusqu'au verset 16. Voilà. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. OK? Donc, simplement, je vais mentionner qu'on voit, qu'il constate, non pas simplement qu'elle est belle, mais aussi qu'elle est vierge. Et donc, des fois, il n'y a plus de vierge. Tout le monde naît vierge. Sur tous les 7 milliards de personnes sur la planète, toutes personnes se naissent vierges. Mais dans notre culture moderne, qui est amorale, qui est sans moralité, on encourage et même pousse à la immoralité. Alors, l'immoralité est offensif à Dieu. C'est un péché. Et Quoi que soit notre passé, nous pouvons nous réjouir du fait que Dieu pardonne en Jésus-Christ tous nos péchés. N'est-ce pas? Amen. Donc, elle est là. Et donc, au verset 17, nous lisons, le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empara d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Combien de chameaux?
10.
10 chameaux. Pensez-vous que c'est un petit peu de l'eau?
Un peu quand même.
Imagine après 10 jours, les bosses, les chameaux. Ah, ils vont repartir le lendemain. Là. Il faut remplir les réservoirs. L'homme la regarda avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Alors, il est intéressant, et un bon modèle pour nous aussi, hein, de voir que cette femme était bienveillante, hein, elle n'était pas... éloignée, il pouvait approcher, elle était hospitalière, elle était, comme j'ai dit, bienveillante, elle était, c'est sûr, énergétique. Et donc, ça c'est le bon exemple pour nous, n'est-ce pas? Notre activité de tous les jours, il faut être hospitalière, énergétique, zélée, hein? C'est important. Alors, verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, et j'imagine ça a pris du temps, l'homme prit un anneau d'or. Alors, un sicle, ça fait à peu près 8 grammes. Donc, ce n'était pas un anneau comme ça. Ce n'était même pas épais comme ça. C'est un anneau d'or pour le nez. Hein? C'était un anneau moderne. Et il dit d'un demi-sicle. Et deux bracelets du poids de 10 sicles. Donc, ça faisait 164 grammes. Chaque bracelet, donc c'est pas extraordinaire non plus, c'est quand même quelque chose, mais pas beaucoup d'or, mais c'est quand même de l'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca, et de Nacor. Elle dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille, donc en entendant cette prière avec ses choses à la main ou sur les mains et dans le nez, eh bien, la jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Donc, premièrement, on voit qu'elle révèle son identité. Donc, il est arrivé exactement où il devait aller. Le serviteur va remercier le Seigneur, donc évidemment, nous aussi, quand Dieu réagit ou qu'il exauce nos prières, on devrait remercier Dieu. Et puis, dans le prochain paragraphe, on va simplement le lire, nous allons rencontrer son frère, Laban qui est avare. Et Laban va revenir dans quelques chapitres, quand il va recevoir Jacob, il va le tromper X nombre de fois. Okay, donc, Laban, ce n'est pas une bonne personne. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il dit, « Viens, béni de l'Éternel. » Donc, ce n'est pas lui qui bénit l'Éternel. Hein, c'est Abraham, mais il ne sait pas encore. Il pense que c'est ce monsieur qui est riche, riche. « Pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arrivé à la maison, Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Parce qu'il n'était pas tout seul, hein? Il y avait plein de monde qui sont venus, il y avait 10 chameaux, donc il y avait les gens qui s'occupaient, puis il y avait peut-être les autres esclaves, etc., qui étaient avec eux. Puis il lui servit à manger, mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. »« Parle, » dit Laban. Donc, le serviteur va raconter, dans les prochains versets, son expérience. Il va donner son message, il va dire pourquoi il est venu, il va parler d'Abraham. Je ne vais pas tout relire, parce qu'il va raconter tout ce qu'on vient de lire. D'accord? Mais c'est intéressant quand il raconte son témoignage, ah ben, il dit en détail. Il ne rate rien. OK? Mais je trouve pour nous, c'est quand même aussi quelque chose d'intéressant. C'est que quand nous avons eu un événement dans notre vie, comme notre salut, on a accepté Jésus comme notre sauveur, ou quand Dieu exauce nos prières, eh bien, ça devient notre responsabilité de raconter ce qui s'est passé. Personne ne peut ce qui se passe dans notre vie si nous ne le disons pas. Et donc, il va raconter, vous pouvez les lire vous-même, il va raconter tout ce qui s'est passé jusqu'au verset 49, c'est la répétition de cette récit. Quand on raconte aux autres ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est une façon d'adorer Dieu, mais aussi de glorifier Dieu. Et donc, on ne veut pas oublier d'agir de cette manière. On arrive au verset, donc on va sauter au verset 49. « Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, donc envers Abraham, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. » Donc, il est venu pour faire quelque chose. Il veut le savoir. Est-ce que ça va se passer? Laban et Bethuel répondirent et dirent, « C'est de l'Éternel que la chose vienne. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Voici Rachel devant toi. Prends et va. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, ils se prosternèrent à terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère, après quoi ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Donc, ça montre encore qu'Abraham était très riche. J'imagine qu'on dirait aux Juifs que c'était la dot. Il a donné la dot. Il a donné des choses, des riches présents à elle et à la famille. Mais il montre par cela quoi? Il montre qu'il va pouvoir, c'est-à-dire Isaac va pouvoir pourvoir pour Rebecca. Elle ne sera pas pauvre. Je me souviens du futur beau-père de Philippe, notre fils Philippe, et le papa ne voulait pas dire oui, tu peux te marier avec ma fille avant que tu aies un travail stable et que tu aies une assurance médicale. Bon, mon fils, il s'est occupé de l'affaire tout de suite. Il ne fallait pas traîner parce qu'il voulait se marier avec la fille. Et donc, c'est normal que la famille veut bien être rassurée que le couple va survivre, n'est-ce pas? Donc, ils ont eu leur soirée. Et le lendemain, quand il fut levé, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Oh, déjà partir. Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me tardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laisse-moi partir et j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Il appela donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Donc elle était déjà persuadée, « Mon mari m'attend, on y va. Hein? » Et c'est quand même intéressant de voir que cet homme ne voulait pas être dissuadé ou détourné. Vous savez, il y a d'autres histoires dans la Bible des serviteurs de Dieu qui ont été détournés. Et ce n'était pas les bonnes choses. Et lui, il est venu pour faire son travail, il a fait son travail, il veut revenir avec la fiancée pour son maître. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Et ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. » Rebecca se leva, et avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux, et suivirent l'homme, et le serviteur amenait Rebecca et partirent. Donc, ils sont partis. Alors on arrive quelques jours plus tard, au verset 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de l'Achaïroi et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda et voici des chameaux arriver. Alors on peut se demander à quoi il méditait. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est moche? Parce que le serviteur est parti et il va revenir. Donc, je vous ai dit, bon, avec les chameaux, ça faisait 10 jours, peut-être moins. On ne donne pas combien de temps, mais ce n'était pas longtemps. Donc, il savait que bientôt, elle va arriver. Et voilà, Rebecca lève les yeux et vit Isaac. Et descendit de son chameau et dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? » Le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors, elle prit le voile et se couvrit. Donc, c'était le coutume de l'époque. Hein? On ne va pas se cacher aujourd'hui, mais à l'époque, on se cachait. Le serviteur racontait à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisait Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Donc, on n'a pas les détails de comment les choses se sont passées. Mais quand je lis cette phrase-là, je comprends, parce que c'était la tante, pas sa tante à lui, mais la tante de sa mère. Donc, il a mené Rebecca à la tente des femmes. Il y a eu le mariage et tout ça, toutes les fêtes et tout ça, parce qu'Abraham n'était pas pauvre. Hein, c'était un grand festin. Il a fait un grand festin quand il a été séparé de sa mère, et j'imagine pour son mariage, il a fait un grand festin aussi. Et donc, il dit qu'il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Abraham après avoir perdu sa mère. Parce que auparavant on avait eu un chapitre avant que sa mère était décédée. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est intéressant qu'il dit « il l'aima hein, ». Parce que dans cette histoire, quand on prend cette illustration de l'Église avec Jésus, eh bien Jésus aimait l'Église, et c'est justement ce qu'on lit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Premièrement, on dit, au chapitre 5, vous trouvez là, « Marie, que chacun aime sa femme. » Et là, on voit que Isaac aima Rebecca. On n'a jamais lu que Abraham aimait Sarah. Je ne me souviens pas d'une phrase comme ça. Mais on voit que Isaac aima sa femme. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre personne, mais il la nourrit et prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc on voit cette relation entre Isaac et sa femme, l'amour. On voit le même principe ici pour l'homme et sa femme, pas ses femmes, attention, sa femme. Et on voit que ça représente quand même une relation entre le Christ et l'Église, les croyants en Jésus-Christ. Donc, globalement, vous savez bien que le mot « aimer » veut dire « faire le bien ». Donc, on fait tout notre possible dans une relation d'amour, de remplir les besoins, de faire du bien envers l'autre. Comme on s'occupe de soi-même, eh bien, on s'occupe de sa femme. On fait le nécessaire pour qu'elle soit confortable, qu'elle a ce qu'il faut et qu'elle a tout ce qu'il faut. Hein, que ça soit intellectuel, que ça soit les vêtements, que ça soit travail ou pas de travail, ça dépend de la femme et tout ça. Hein, c'est le couple qui connaît toutes ces choses-là. Donc, c'est une pensée pour nous les hommes. Hein, chacun de nous, hein, on devrait aimer sa femme. Comme Christ a aimé l'Église. Au point de mourir pour l'Église, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une mince affaire. Amen. Oui.
Quand ils disent qu'Abraham il est mort à 175 ans, c'est trop pas possible. Ah, je veux dire, personne ne vit 175 ans.
Pas beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas?
Ben, personne.
Il y a combien le doyen de la France aujourd'hui, à quel âge?
Il doit avoir 116 ans, le doyen de l'humanité.
Oui, je sais pas, 107, je pense.
Oui, mais voilà, mais 175 ans.
Donc, à l'époque, on vivait plus longtemps.
Mais même 175 ans, c'est trop pas possible. Vous imaginez 175 ans? Ils savaient les dents avec du miel? Ils ne savaient pas soigner, ils n'avaient pas les médicaments maintenant. Enfin, je veux dire,
Pâques,
là, il est un peu...
Non, mais il dit qu'Isaac est mort à 140 ans, Abraham à 175 ans, la génération d'avant, Abraham, il y a qui mourait à 200 ans, et en allant vers le passé dans l'histoire, il vivait plus longtemps.
Non,
on n'a pas l'habitude de ces choses, ça c'est sûr. On n'a pas l'habitude.
Vous imaginez quelqu'un qui a 200 ans?
Non, je ne peux pas. On n'a pas l'habitude de ces choses. Mais là, on a des enregistrements de l'Antiquité, donc on ne peut pas le renier.
Ils n'avaient pas les registres des naissances, en plus, à l'époque.
Ben non, ils n'ont pas intérêt à mentir. Tu vois, même avec le récit qu'on a lu, ils ont mis beaucoup de détails. Ils font un effort de raconter, donc dans le récit, je parle de le récit, c'est plein de détails. Et ils mettent des détails pour être honnêtes avec nous. Aussi, quand on parle de la parole de Dieu est la vérité. On ne peut pas même imaginer que Dieu aurait menti quand il racontait les choses. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Tu es d'accord, on n'a pas l'habitude de voir ces choses. On n'a jamais connu de telles personnes. C'était un peu différent. Ça fait 4000 ans dans le passé. Hein, c'était pas hier. Ce n'est pas une question scientifique, c'est une question historique.
Mais c'est même médicalement impossible.
Non, c'est pas. Il n'y a pas des choses comme ça, médicalement impossible. Mais c'est une question historique. Dans l'histoire, les choses étaient différentes qu'aujourd'hui.
Mais même avant, c'est pas possible.
Bah si. On va demander. Mike, on pourrait, si on était en bonne santé, vivre combien de temps? S'il n'y avait aucune maladie.
Quelles sont les limites?
Voilà.
Mais je pensais que dans les moyens âges, le moyen de vie, c'était peut-être 40 ans.
Oui.
Et ces gens-là, ils ne pourraient pas imaginer un vieil homme comme moi. Parce que dans leur expérience, avant 50 ans, tout le monde était déjà mort.
Voilà, oui. Donc c'est ça notre expérience, on ne connaît pas ça, mais à l'époque, voilà. Ok.